Gilets jaunes ont manifesté pour un quatrième samedi de suite en France hier. C'est un mouvement historique à plusieurs égards. Et Fabrice de Pierrebourg, envoyé spécial à Paris, était on ne peut plus au cœur de l'action. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Kevin m'a dit hier, après qu'on se soit parlé, que quelques minutes à peine avant d'entrer en onde, vous vous étouffiez parce qu'une grenade lacrymogène venait tout juste d'exploser à côté de vous. Vous étiez vraiment au cœur de l'action pendant la manifestation.
Ouais, ben c'est ça. Ça fait partie un peu des risques, mais c'était pas prévu, mais quand même prévisible parce que les forces de l'ordre hier ont tiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaz lacrymogène. Et puis j'étais sur les Champs-Élysées, mais quasiment tous les accès étaient barrés. C'est-à-dire que il y avait là des milliers de manifestants, vraiment pour la quasi-totalité pacifique. Sauf que au milieu de tout ça, il y avait beaucoup de casseurs qui essayaient régulièrement d'aller confronter les forces de l'ordre, qui barraient les Champs-Élysées en haut, mais surtout en bas, puisque c'était proche du palais de l'Élysée, donc la présidence de la République. Et donc, il y avait des vagues comme ça de lacrymogènes qui partaient dans tous les sens. Puis, il y en a une qui a pété pas loin de moi, mais bon. On avait beau avoir des masques, parce que le matin, les policiers contrôlaient tout le monde et supprimaient les casques, les masques,
ah ouais.
Tout ce qui pouvait ressembler aussi à des armes, qui auraient pu servir à des armes. Donc, moi, j'avais laissé mon casque et mes masques à l'hôtel, mais bon, c'est pas grave.
Est-ce que les autorités ont fait un bilan? Parce que je disais qu'on parlait de plus de 1300 arrestations. C'est fou.
Ah oui. Mais c'est même plus que ça. Ce matin, les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est 1723 arrestations à travers toute la France. Bon, il y a eu du grabuge à Paris, mais aussi essentiellement à Bordeaux et à Toulouse. Et ce matin, il y en avait 1220 qui étaient en garde à vue, c'est-à-dire que c'est quasiment incarcéré, donc c'est dans les cellules de la police. Probablement plus d'une centaine de blessés. C'est sûr que, et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, parce que les images semblaient parfois moins spectaculaires que le samedi d'avant, où là, entre autres, tout le monde se souvient encore des images du saccage de l'Arc de Triomphe,
ouais.
Puis des manifestants qui sont en haut. Mais ce matin, la mairie de Paris a dit que les dégâts étaient beaucoup plus importants et surtout beaucoup plus étalés dans Paris, parce que les casseurs avaient aussi changé de stratégie, tout comme les policiers. Donc, et moi, je l'ai constaté, parce que certains moments, je me suis retrouvé pas loin de casseurs. J'ai mis beaucoup de photos sur les réseaux sociaux hier, sur mon compte Twitter. Et c'est des jeunes, ils sont très, très mobiles. C'est pas des gilets jaunes, c'est des jeunes, peut-être qui viennent aussi des environs de Paris ou d'un certain quartier de Paris, et qui ciblaient en priorité des magasins d'articles de sport. Hein. Moi, j'en ai vu un magasin se faire littéralement piller. Il sortait avec des boîtes de Nike, etc., des clubs de golf. Bon, ça, ils s'en servaient plus après comme arme pour défoncer des voitures, saccager des vitrines. Donc, si vous voulez, le bilan est quand même lourd, mais ce qui est quand même incroyable, c'est que ce matin, j'étais très tôt dans le même quartier. J'ai décidé de retourner au même endroit où j'étais hier, autour des Champs-Élysées. Et toute la nuit, les employés de la ville de Paris, leur col bleu ont vraiment nettoyé. Ça finissait ce matin. Et il n'y a quasiment aucune trace dans les rues. Les vitrines, oui, les murs, tout ça sont encore tagués, défoncés. Mais dans les rues, j'ai vu qu'une voiture encore défoncée. Tout a été enlevé, nettoyé. Il reste encore quelques pavés par-ci par-là.
Ouais.
Beaucoup de cartouches vides de gaz lacrymogène, puis de flashball, ces espèces d'armes qu'avaient les policiers civils hier, qui sont des grosses balles en caoutchouc. Quand vous prenez ça dans le corps, là, c'est comme si vous preniez un direct du droit d'un boxeur. Beaucoup de monde a été blessé comme ça hier, y compris des représentants des médias. Mais surtout, ce matin, les riverains, les commerçants que j'ai rencontrés, les touristes sont complètement à la fois sous le choc, puis éberlués de ce qui s'est passé encore hier. C'est le troisième samedi de suite qu'on assiste, surtout depuis la semaine dernière, qu'on assiste à des émeutes de ce genre-là. Puis il y en a qui se demandent comment le gouvernement va pouvoir arrêter ça, puisqu'on a l'impression que il y avait à peu près le même nombre de manifestants, on dit, hier que samedi dernier. Donc, il y a quand même un support de la population envers le mouvement des Gilets jaunes, je parle pas envers les casseurs. Puis là, ils se demandent qu'est-ce que ça va prendre pour arrêter ce mouvement-là de frustration complète envers le pouvoir, envers le monde de la finance, envers tout ce qu'on peut imaginer. Et minimalement, les gens réclament le départ du Premier ministre. Mais sur le terrain, moi, j'ai vu des gens qui étaient enragés. Puis il y en a, c'est sûr, qui étaient très, très enragés. Un commerçant, lui, qui nettoyait sa vitrine et qui me disait « Comment ça se fait? On paye la police, puis on paye l'armée. Comment ça se fait qu'un État n'arrive pas à nous protéger de ces voyous, de ces casseurs qui viennent tout saccager ?» Entre les lignes, il demandait l'intervention de l'armée. Puis on a vu quelque chose hier soir. Moi, j'ai pas été témoin directement, mais on s'est passé partout aux nouvelles. Et ça, c'est un scénario que craignent les policiers. C'est un commerçant, un bijoutier. Cette image-là, elle tourne d'ailleurs cette vidéo sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Sa vitrine était en train de se faire défoncer. Il était à l'intérieur avec, je pense, son fils et un employé. Puis en dernier recours, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un pistolet, donc une arme flashball, hein, et il a tiré sur les casseurs. Évidemment, ça peut pas tuer, mais ça peut grièvement blesser. Et il y a des policiers, un syndicaliste entre autres, qui disait ça va être quoi la prochaine fois, il y a quelqu'un qui va prendre un fusil à pompe, puis ça va tourner la catastrophe. Puis ouais. Ce même représentant du syndicat de police disait ce matin, il dit faut que ça arrête. Puis même l'adjoint de la mairesse socialiste de Paris l'a dit, il dit vraiment on est arrivé au bout du bout de ce qu'on peut faire en matière de sécurité publique. Puis Paris ne pourra pas supporter, ça je le cite, un week-end supplémentaire de chaos. Quoi. Donc, ouais. Il y a vraiment une grosse pente à remonter pour le pouvoir politique.
Et j'imagine que le président français n'a toujours pas donné signe de vie. Je pense qu'il prévoit peut-être prendre la parole demain, si je ne me trompe pas.
Demain, mais il y a plein de gens à qui je parle, et puis je le voyais hier, qui disaient, c'est trop tard. Il n'a pas parlé pendant des semaines, ou quand il parlait, parfois il avait des réactions qui semblaient un peu hautaines ou un peu déconnectées de la réalité. Et c'est comme si maintenant... Bah, tout le monde, ce mouvement-là, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le reflet de la frustration des Français. Ouais. Mais il paraît, c'est le Figaro qui a rapporté ça ce matin, que Emmanuel Macron, jeudi, aurait dit à son entourage qu'effectivement, il avait fait des conneries, je le cite, son gouvernement fait des conneries, puis qu'il reconnaissait que les Français étaient trop taxés puis qu'il y avait trop d'impôts. Mais donc, tout le monde a bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer lundi. Mais déjà, sur les réseaux sociaux, il y a des appels à ce qu'on appelle l'acte 5, donc la cinquième journée de manifestation pour samedi ouais. prochain. Ouais. Il y en a même qui veulent que ça continue au-delà de Noël. Puis évidemment, les commerçants, tout ce qui est les hôteliers, disent non, c'est notre mois, on faisait normalement d'autres chiffres, un très bon chiffre, hein, c'est avant les fêtes. Mm-hmm. Puis, qui va vouloir continuer à venir à Paris hein? C'est qui? Je ne sais pas s'il y a des gens parmi nos auditeurs là, qui ont l'intention d'aller passer les fêtes à Paris, mais peut-être qu'il y en a qui vont changer d'avis en disant ouais. Est-ce que ça nous intéresse d'aller bouffer du gaz lacrymogène sur les Champs-Élysées? Pas grand monde, non.
Non, pas tellement. Fabrice de Pierrebourg, envoyé spécial de Cogeco à Paris, merci beaucoup.
Merci à vous, bonne journée.
OK, au revoir. Oui, pour répondre à Nicolas au 25226 qui dit, pouvez-vous nous rappeler pourquoi cette manifestation-là, j'en perds des bouts? C'est normal, Nicolas, que tu en perdes des bouts parce que c'est passé d'une taxe sur l'essence. L'essence est déjà beaucoup plus chère qu'ici, là, en France. Et puis, le gouvernement d'Emmanuel Macron avait annoncé qu'il allait taxer l'essence pour des raisons environnementales. Et les gens se sont mis à dire non, c'est un mouvement très spontané. Les gens se sont mis à dire, on est tellement taxés, cette nouvelle taxe-là va faire en sorte que le fait d'aller travailler puis de revenir, ce que ça me coûte en essence, va me coûter trop cher, je ferai plus d'argent. Ça va me coûter trop cher à me déplacer. Ils sont mis à manifester avec les fameux gilets jaunes qu'ils trouvent dans le coffre de leur voiture parce qu'en France, t'es obligé d'avoir une espèce de petit kit de survie dans ton auto, corps ouais. à booster, patente, avec notamment le fameux dossard jaune pour que tu sois visible quand t'es sur le coin de la rue en panne. Et donc, ils sont mis à manifester. Ce mouvement-là a pris de l'ampleur et a dévié vers, en général... En fait, c'est comme élargi à... C'est passé de la taxe à l'essence à... En général, on est trop taxé, le gouvernement prend trop d'impôts, notre pouvoir d'achat diminue, ce qui est pas tout à fait vrai. On remarquait avec les chiffres que le pouvoir d'achat des Français a stagné. Le problème, c'est que les salaires ont augmenté. Mais le gouvernement prend toujours de plus en plus d'impôts, donc le pouvoir d'achat stagne.
Oublie pas qu'à la base, en France, c'est le roi de la taxe. T'es pas obligé de juste mesurer depuis la semaine passée ou le dernier mois. Là,
non, surtout depuis 15 ans.
Exactement.
Mais depuis 15 ans... Les taxes et les impôts augmentent, de sorte que le pouvoir d'achat des Français stagne. Mais dans les 15 années précédentes, le pouvoir d'achat des Français augmentait sans cesse. Donc, il faut dire aussi qu'il y a des gens qui étaient habitués à justement être dans une espèce de cycle de prospérité comme ça. Et là, tout d'un coup, ben, ils voient les taxes et les impôts augmenter, ils n'en peuvent plus. Ce qui a fait en sorte que, donc, même si le gouvernement Macron a annoncé que ils allaient finalement annuler cette taxe-là qui était prévue pour janvier, ils allaient l'annuler puis ils taxeraient pas l'essence, ça a pas fait en sorte que le mouvement s'est essoufflé parce que les gens sont vraiment à bout. C'est comme l'étincelle qui a fait en sorte que tout a explosé.
Ah, puis t'as un autre excellent exemple à quel point la communication puis les perceptions, c'est plus fort que les faits puis les chiffres puis les fichiers Excel. Parce que ce qu'on reproche beaucoup à Emmanuel Macron, c'est d'être déconnecté de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. monde. Puis il a fait beaucoup des commentaires de toutes sortes de qui ont été repris souvent par la presse et autres, puis qui revenaient à dire, regardez-moi, puis ma belle gang, avec, tu sais, je suis un jeune ancien banquier, j'ai 40 ans, j'ai ma cravate. Là, il y a toute une gang qui s'appelle les Français, qu'on n'entend jamais parler, la fameuse majorité silencieuse. Ouais. Ben, elle a décidé d'arrêter de l'être. C'est un peu ça le résumé aussi, tu sais. Ouais.